Voilà, chers amis, nous allons ouvrir nos Bibles dans l'Ancien Testament dans un premier temps et dans le livre des psaumes. Livre des psaumes, donc à mi-distance dans l'Ancien Testament, au psaume 66. Psaume 66. Qui est un cantique dont nous lisons les versets 10 à 12. Psaume 66, versets 10 à 12. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu. Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Et tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Nous passons dans la deuxième partie de la Bible, le Nouveau Testament, et au quatrième évangile, évangile selon Jean, chapitre 12. Jean, chapitre 12. Pour relever quelques paroles du Seigneur Jésus, lui-même, qui répond à une sollicitation de Grecs qui étaient montés pour la fête de la Pâque, qui s'intéressaient à l'enseignement de Jésus et qui désiraient le voir d'une manière plus particulière. Et Jésus va répondre à cette sollicitation d'une manière toute particulière. Verset 23 de Jean 12. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. » Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui aime sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Que dirais-je, Père ? Délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Et enfin, un dernier passage vers la fin du Nouveau Testament, c'est une reprise d'un texte déjà lu hier soir dans l'épître de Jacques, au chapitre 1er, après l'épître aux Hébreux, épître de Jacques, au chapitre 1er, tout d'abord après l'adresse, une entrée en matière dans les versets 2 à 4, chapitre 1er, versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les épreuves variées auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'examen de passage, la mise à l'épreuve, le test, de votre foi produit la persévérance, la constance, l'endurance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfait, adulte, mûr, et accompli, équipé, qu'il ne vous manque rien, sans faillir en rien. Et verset 12, « Heureux l'homme qui endure la tentation, qui la supporte patiemment, qui est constant dans l'épreuve et dans la tentation. Car après avoir été mis à l'épreuve, testé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré, amorcé par sa propre convoitise, ses propres désirs coupables. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. J'ai parcouru 1 000 aux côtés du plaisir. Qu'il était donc bavard. Il babillait sans cesse. Mais il ne m'est resté ni savoir ni sagesse de tous les beaux discours dont il crut m'éblouir. J'ai parcouru 1 000 aux côtés du chagrin. Tout le long de la route, il resta bouche close. Cependant, oh, combien il m'enseigna de choses, tandis que nous étions tous les deux en chemin. Et nous sommes en chemin. Nous sommes en chemin sur ce thème de la souffrance que nous considérons, nous l'avons dit hier soir dans notre introduction, comme une nécessité. Inscrite dans la pensée de Dieu, je dirais à son corps défendant. Il aimerait tellement nous éviter la souffrance. Mais nous sommes, hélas, dans un monde pécheur, nous-mêmes dans notre nature propre corrompue, ayant une tendance fâcheuse et continue vers le mal. Et donc, bien malgré lui, parce qu'il nous aime, Dieu a inscrit la souffrance comme avertissement, disions-nous il y a 15 jours, comme cette voix issue de son mégaphone pour s'adresser à un monde sourd qui ne veut pas entendre Dieu et son message. Mais aussi, comme école, vers la maturité spirituelle. Et nous avons commencé hier soir à évoquer le caractère pédagogique de la souffrance. Pas de vraie croissance sans souffrance, avons-nous dit. Et nous avons remarqué à travers quelques exemples que ce principe divin se vérifie dans la nature, dans sa création, dans le monde végétal en particulier. Et à partir de là, nous avons tenu hier soir à préparer le chemin de nos deux études d'aujourd'hui en répondant à une question préliminaire. Quels sont les rôles respectifs de Dieu et de Satan dans les circonstances difficiles que rencontre le disciple de Jésus-Christ sur sa route. Bien entendu, il faut le répéter. Quand nous disons que la souffrance est incontournable, qu'elle est une nécessité, qu'elle fait partie du programme de la vie, et de la vie chrétienne en particulier, nous précisons aussitôt qu'il est des souffrances que nous pouvons nous épargner et que nous devons nous épargner. Mais dans notre folie, hélas, nous ne le faisons pas trop souvent. Ce sont les souffrances qui sont directement consécutives à des fautes précises que nous commettons tout au long de notre vie. C'est pourquoi dans la première épître de Pierre, qui nous servait d'introduction hier soir, nous constations qu'à deux reprises, inspiré par Dieu, l'apôtre Pierre, de dire « Mais vous savez, si c'est comme malfaiteur ou voleur ou en vous ingérant dans les affaires d'autrui que vous souffrez, eh bien, n'allez pas en tirer gloire. Demandez plutôt pardon à Dieu. Plaidez coupable. Acceptez qu'il y ait des conséquences à cette manière de brûler des feux rouges à tour de bras. Et si vraiment vous plaidez coupable, si vous reconnaissez votre faute, si vous ne cherchez pas du matin au soir toutes sortes de circonstances atténuantes, alors Dieu vous accompagnera ensuite sur la base de votre repentance. Et il reconstruira, il restaurera, et il permettra même, par une alchimie extraordinaire de son amour, que ces souffrances liées directement aux actes péchés soient utilisées comme bien, à la fois pour notre reconstruction et aussi pour notre témoignage auprès de ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Ça, c'est extraordinaire. Et nous ne devons jamais perdre de vue cette distinction entre les souffrances qui sont directement liées à nos fautes et que nous devons d'abord régler avec le Seigneur, et toutes les autres souffrances qui sont inhérentes à notre vie sur la terre, en particulier en tant que disciples de Jésus-Christ, c'est là notre thème, parce que nous ne sommes pas enfermés dans une bulle d'oxygène pur, d'air absolument extraordinaire, non loin de là. Nous nous identifions au monde dans lequel nous sommes. Nous vivons au milieu des êtres et la souffrance est donc inhérente, ne fût-ce qu'à cause de cela, à notre vie de disciple. Alors, quelles sont les places respectives de Dieu et de Satan dans les difficultés que rencontre le disciple de Christ sur sa route? Et sans m'y attarder, je rappelle ce matin, et j'annonce en même temps pour ceux et celles qui nous rejoignent, que nous avons dans les Écritures un petit mot. Nous avons lu en français, à diverses reprises, dans le début de l'épître de Jacques, et qui a cette particularité, c'est que dans notre belle langue française, il est rendu par deux mots différents, alors que dans le texte dans lequel le Nouveau Testament a été écrit, c'est-à-dire la langue grecque, nous avons deux mots différents, un seul mot pour deux mots différents dans la langue française. Un seul mot donc, qui tantôt est rendu par l'expression « épreuve », tantôt est rendu par l'expression « tentation ». Comment les traducteurs s'y prennent-ils pour faire le choix de traduction? Eh bien, ils tiennent compte du contexte. Il y a des contextes dans les Écritures, l'environnement immédiat, le thème du chapitre, le thème des quelques versets qui entourent ce mot. Eh bien, il y a des versets qui obligent à rendre par le mot épreuve. Et il y en a d'autres qui obligent à rendre par le mot tentation. Et puis, il y a même des versets où l'on peut facilement rendre ce petit mot grec par les deux mots. Tout simplement parce que le contexte n'est pas suffisamment pointu pour que l'on soit contraint de choisir entre l'un des deux. Nous en prendrons d'ailleurs un exemple tout à l'heure. Alors ce petit mot grec, on va refaire notre petite démonstration d'hier, sera représenté par cette pièce de monnaie qui évoque son caractère. Si ce petit mot grec peut être traduit par épreuve et tentation, cela signifie qu'il contient en priorité un programme de souffrance, parce que l'épreuve, c'est la souffrance. Et la tentation, ça peut être une terrible souffrance. Donc ce mot grec, c'est cette pièce, et la souffrance qu'il exprime sous ces deux formes, c'est encore cette pièce. Et c'est donc cette pièce avec ses deux côtés, ces deux tranches, pile et face, d'un côté le mot épreuve, de l'autre le mot tentation. Et il y a dans l'épître de Jacques, à partir du verset 13, une affirmation très forte qui va nous aider à défricher. C'est tout d'abord que Dieu n'est jamais l'auteur de la tentation. Dieu ne tente personne. Et ça, c'est un principe qui est contenu de l'alpha à l'oméga des Écritures, de Genèse 1 à Apocalypse 22. Dieu ne tente jamais personne. Et l'apôtre Jacques explique de la part de Dieu que c'est le problème, il est chez nous. C'est que notre nature étant pervertie à 100%, c'est en nous qu'est inscrit le mécanisme qui mène au péché. Et en quelque sorte, ce mécanisme fonctionne de lui-même. Je le disais hier soir, si nous avons un passage qui affirme la perversion à 100% de l'homme naturel, c'est celui-ci. Nous avons en nous ce mécanisme qui nous conduit de la tentation vers le péché qui se traduit ensuite par la mort. Mais nous avons remarqué que si Dieu n'est pas le père de la tentation, il y a quand même quelqu'un qui intervient magistralement, et c'est triste à dire, dans ce domaine, dans ce mécanisme de la tentation, c'est la puissance des ténèbres, c'est le diable. Et le diable, lui, va jeter de l'huile sur le feu, il va attiser les braises dans notre vie, de manière à ce que nous succombions dans la tentation, à ce que nous entrions dans la tentation, à ce que nous nous enfermions dans la tentation, à ce que nous passions du premier regard vers le deuxième regard, et qu'ainsi nous chutions. Donc nous avons pu hier soir faire cette double définition. Satan nous tente. Et la tentation est un processus négatif, destructeur, infernal, parce que Satan est l'adversaire, parce que Satan est le diviseur, parce que Satan est le destructeur, parce que Satan est le calomniateur. Parce que Satan veut l'enfer dans notre vie. Caractère négatif. La tentation est donc une épreuve, une mise à l'épreuve, mais dans laquelle le diable joue un rôle absolument éminent en vue de notre chute, de notre destruction, de toutes sortes de blessures de l'âme et du corps. Maintenant, si Dieu ne nous tente pas, parce qu'il ne peut être l'auteur du mal, ce serait un flagrant délit d'outrage à sa majesté, à la majesté divine, que de dire cela. Dieu néanmoins nous met à l'épreuve. Genèse 22, verset 1, Dieu mit Abraham à l'épreuve, en lui demandant d'offrir son fils Isaac. C'était un test suprême dans la croissance de la foi de ce père des croyants qu'est Abraham. Dieu nous met à l'épreuve, mais à la grande différence de Satan, bien entendu, puisque tout don parfait, toute grâce excellente descendent du ciel, de ce père des lumières, chez lequel il n'y a pas la moindre ombre, la moindre variation, la moindre instabilité, la moindre obscurité, le moindre brouillard. Eh bien, parce qu'il en est ainsi, la mise à l'épreuve ne peut avoir qu'une dimension positive. Dieu nous met à l'épreuve en vue du ciel, parce que Dieu veut notre bonheur, Dieu veut une harmonie, une construction de notre vie. Dieu vise le ciel dans la mise à l'œuvre, à l'épreuve, même si cette construction, cette édification dans notre vie peut et doit passer par des situations de dépouillement, voire parfois même de jugement, puisque nous avons parlé hier soir de l'irruption du temps du jugement à l'intérieur du temps de la grâce. Ces moments où effectivement Dieu peut dire, écoute, là tu es allé trop loin, et là je dois intervenir de manière extrêmement sévère, comme Dieu est intervenu par exemple dans l'église de Corinthe, lorsqu'il se passait des choses absolument abominables au niveau de l'inceste, mais aussi au niveau des agapes fraternelles, de ces repas fraternels, où les uns se goinfraient pendant que les autres étaient dans un coin à loucher avec envie vers ceux qui ne pensaient qu'à leur propre ventre et qui s'enivraient avant de prendre la scène. D'où cette remarque de l'apôtre Paul, en rappelant l'institution de la scène, mais c'est à cause de cela, à cause de vos désordres, votre manière de vivre qui déshonore l'Église de Dieu, que Dieu intervient et qu'il y a parmi vous beaucoup de malades, et qu'il y a même un certain nombre de personnes qui sont décédées. C'est-à-dire qu'il peut y avoir effectivement irruption du jugement dans le temps de la grâce, lorsque le peuple de Dieu se met à bafouer la majesté de Dieu et l'Église de Dieu. Mais même là, nous l'avons dit hier soir, le but suprême de Dieu, c'est que l'Église ne soit pas contaminée dans sa totalité. C'est que la gangrène qui est en train d'atteindre tel ou tel membre de l'Église ne puisse pas se répandre dans le corps tout entier. Il est donc nécessaire parfois, et Dieu le sait, qu'il y ait une amputation en vue du ciel, une fois de plus. Donc en conclusion, nous avons dit hier soir que chaque épreuve a une dimension de tentation. Chaque fois que nous sommes éprouvés, le diable est à l'affût, parce qu'il va nous tenter pour que cette épreuve, au lieu d'être constructrice de nos vies, devienne destructrice de nos vies. Chaque épreuve a une dimension de tentation. Et chaque tentation va avoir une dimension d'épreuve, parce que Dieu vise à ce que nous soyons vainqueurs dans la tentation, parce que chaque victoire sur la tentation dans ma vie renforce mes anticorps contre le péché, me rend plus que vainqueur sur la puissance des ténèbres et me permet d'avoir plus de vitalité dans ma marche avec Dieu et dans mon service pour lui. Chaque épreuve a une dimension de tentation, chaque tentation a une dimension d'épreuve. Vous comprenez maintenant pourquoi, dans le grec, nous n'avons qu'un seul mot, puisque ce mot va dans ces deux directions qui sont à la fois apparemment contradictoires et remarquablement complémentaires. Nous avons un exemple que je n'ai pas cité hier soir. C'est certainement le plus bel, le plus fort exemple des Écritures, à savoir l'exemple des souffrances de Jésus-Christ et de sa mort expiatoire, de la manière dont il s'est substitué à chacun d'entre nous pour porter, pour vivre ce jugement terrible qui devrait tous nous atteindre dans la mort éternelle, dans la séparation éternelle d'avec Dieu dont parlent les Écritures. Satan et Dieu, dans un sens, voulaient tous les deux ces événements terribles dans la vie du Fils de Dieu. Il y avait les mobiles de Satan et il y avait les mobiles du Père, de Dieu le Père. Le mobile de Satan, c'était la rébellion, c'était le désir de faire pécher le Fils de Dieu. Et ça a été son désir permanent, n'est-ce pas? Nous savons comment, à peine baptisé, le Seigneur Jésus s'en va dans le désert. Et là, dans le désert, qui se présente la puissance des ténèbres, il est tenté. Et continuellement, il va y avoir dans le mobile de Satan le désir de faire pécher le Fils de Dieu, le désir de l'anéantir. C'est la tentation du destructeur. Si je peux le détruire, celui-là. Et puis nous savons qu'il y a un si beau mobile, tellement incompréhensible, du Père. Celui de l'amour, la sainteté, de la miséricorde, le pardon, le salut. Une terrible épreuve. Terrible épreuve dans la vie du Fils de Dieu. Nous en reparlerons en introduction à notre dernière étude cet après-midi. Alors la question qui se pose, et que nous avons posée hier soir, en reprenant ce porte-monnaie, j'ai sorti donc cette pièce de 5 francs de mon porte-monnaie. Ce porte-monnaie à un propriétaire, cette pièce de 5 francs à un propriétaire, et non deux. Alors, dans quelle poche, en quelque sorte, se trouve la souffrance qui se caractérise dans ces deux dimensions d'épreuve et de tentation? Et nous avons remarqué, c'était là notre grande annonce d'hier soir, pour clore, cette pièce se trouve dans la poche de Dieu. C'est Dieu qui éprouve et c'est Dieu qui permet la tentation qu'il contrôle parfaitement. Ça, c'était la grande annonce d'hier soir. Et pour revenir aux souffrances de la croix et à sa mort sur la croix, nous pouvons répondre de la même manière. La cause première des souffrances et de la mort de Christ sur la croix, ben c'est Dieu. Parce que c'est Dieu qui avait prévu ce plan de salut pour l'humanité de toute éternité. Nous le savons. Plusieurs textes le disent de manière extrêmement claire, dès avant la fondation du monde, dans la première épître de Pierre, mais dans quantité d'autres passages. Dans l'éternité passée, Dieu avait déjà, lui qui vit en dehors du temps, prévu ce plan de salut extraordinaire dans la mort de son Fils sur la croix. C'est donc Dieu qui est la cause première, puis il y a la cause seconde. La cause seconde, c'est Satan. Satan qui a servi, malgré lui, à exécuter ce plan d'amour du Père. Et au moment où Satan se frottait les mains en disant « Ça y est, j'ai gagné !» il signait sa propre défaite. Et en réalité, le vainqueur, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui n'a pas succombé à la tentation, mais qui a été vainqueur dans l'épreuve jusqu'au bout. Épreuve de la croix qui est devenue une épreuve extrêmement féconde puisque 2000 ans plus tard, la majorité d'entre nous, nous sommes les fruits directs de cette victoire du Fils de Dieu sur la tentation, sur la puissance des ténèbres et de cette victoire du Fils de Dieu dans l'épreuve suprême de la croix. L'auteur d'un livre remarquable écrit ceci: la crucifixion de notre Seigneur est le résultat de la tentative la plus audacieuse jamais faite par Satan. Et nul doute que l'enfer et tous ses habitants ont dû festoyer en ce sombre après-midi qui a vu Jésus plonger dans la mort. Mais attendez, la croix est devenue l'arme par laquelle la tête de Satan a été écrasée et par laquelle son royaume doit encore être anéanti. Dieu lui permet de forger les armes mêmes qui serviront à sa propre destruction et de décocher les coups de foudre qui retomberont sur sa propre tête. De la même manière, nous pouvons tourner les assauts les plus furieux à notre avantage et à la gloire de notre roi. Nous sommes heureux. Ça devrait remplir notre cœur d'une joie immense de réaliser cela. Alors j'avais promis hier soir que nous irions chercher dans les Écritures un exemple pratique, concret, auquel nous puissions nous identifier même, de cet enseignement qui est un enseignement doctrinal. Vous voyez que notre pratique de la vie chrétienne doit toujours reposer sur un enseignement doctrinal solide. On ne fait pas l'inverse. Alors c'est ce que nous allons faire. Et nous allons ensuite partir de cet exemple pris dans l'Ancien Testament pour actualiser, c'est-à-dire pour voir comment, dans notre vie aujourd'hui, cela se traduit dans le concret. L'exemple que nous prendrons tient dans la matière majoritaire d'un livre de l'Ancien Testament. Je veux parler du premier livre de Samuel. Et dans le premier livre de Samuel, nous avons la moitié, plus précisément la seconde moitié, du premier livre de Samuel qui est consacré à un thème qui pourrait faire le sujet d'un film extraordinaire à suspense. Si j'étais metteur en scène, voilà un film que j'aimerais proposer et que j'intitulerais « La guerre des deux trônes ». 1 Samuel, chapitre 16 à 30. « La guerre des deux trônes ». Film à suspense. Dans lequel deux personnages, parmi d'autres, mais deux personnages principaux, se courent l'un après l'autre comme le chat court après la souris et essaie de jouer avec elle avant de la croquer. Et il y a dans cette, on ne sait pas combien d'années exactement, 5, 8, 10, peut-être, disons, allons vers la dizaine d'années. Il y a dans cette dizaine d'années d'une part le roi Saül, premier roi d'Israël, roi selon le choix des hommes, et d'autre part David, le futur roi d'Israël, roi selon le cœur de Dieu. Et au cœur de ce premier livre de Samuel, et au début du chapitre 16, tout bascule. Lorsque la désobéissance orgueilleuse de Saül a atteint un tel degré que Dieu dit, bon, ah ben maintenant on va tourner la page. Et j'ai choisi dans mon cœur un successeur. Et ce successeur, c'est un jeune homme qui a 17 ans, 18 ans peut-être, et dont je ferai un grand roi, David. Et à partir de là va commencer une lutte terrible, qui ne se terminera que lorsque David sera âgé de 30 ans. Donc les années, je dirais, stratégiques de la vie de David ont été des années terribles, pendant lesquelles on peut compter grosso modo une dizaine de tentatives d'assassinat de la part de Saül. Ce généralissime, ce stratège éminent qui le poursuit avec 3000 hommes d'élite, et quand on sait ce qu'était l'élite de l'armée d'Israël, c'était pas rien. Et de l'autre côté, ce chef de bande qui voit sa bande grossir de plus en plus jusqu'à compter 600 hommes et qui et donc va connaître des heures extrêmement difficiles. Lutte du roi selon la chair, selon le cœur des hommes, du roi déchu, même s'il est encore en fonction, contre le roi selon le cœur de Dieu. Dit dans un autre langage, dans le langage du Nouveau Testament, lutte de la chair. Nous l'avons dit hier soir, je me répète, de l'hippopotame moi, de la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, de notre homme naturel, de tout ce qui nous chatouille intérieurement et qui nous pousse vers le péché, contre l'esprit de Dieu, qui domine, ou qui doit dominer, la vie du disciple de Jésus-Christ. Saül, le charnel, va lutter à mort contre ce qui en David a la marque divine, sur ce qui en David est spirituel. Et il va y avoir un crescendo d'une haine de plus en plus implacable. Prenez, si vous le voulez bien, au chapitre 18, chapitre 18. 1 Samuel, chapitre 18. Au verset 8. 1 Samuel, chapitre 18, verset 8. David, placé par Saül à la tête des armées, remporte victoire sur victoire. C'est un chef d'armée très populaire, un homme qui mouille aussi sa chemise, qui se donne. Et au hit parade d'Israël, c'est lui qui a la cote. Dans les statistiques et les sondages, c'est lui qui a le meilleur pourcentage. Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Et c'est là alors que l'hippopotame moi, chez Saül, qui est le chef d'État, et un stratège de grande renommée, se montre. Saül fut très irrité, verset 8, cela lui déplut, il dit, comment on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000? Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Verset 14, David réussissait dans toutes ses entreprises, l'Éternel était avec lui. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Et puis enfin, verset 28, Saül vit et comprit que l'Éternel était avec David. Michal, sa fille, aimait David. Saül craignit de plus en plus David et il fut toute sa vie son ennemi. C'est clair. Nous avons des textes du Nouveau Testament qui sont illustrés par l'Ancien Testament. Nous pouvons tellement mieux comprendre ces grandes vérités du Nouveau Testament, tellement importantes pour nous, à partir de récits comme celui-ci. Si nous lisons dans Romains 8, verset 7, « L'affection de la chair est inimitié contre Dieu » et que nous ne comprenons pas ce que ça veut dire, mais l'histoire de Saül et David en est la meilleure illustration. L'affection de la chair, l'amour de l'hippopotame moi, qui se traduit en jalousie, en ruse, en esprit de destruction, en esprit de parti, etc., eh bien cette affection de la chair est inimitié contre Dieu, c'est-à-dire qu'elle va même s'attaquer à ceux dans le cœur desquels Dieu règne. Ou encore Galates 5, 17, la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair, ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Alors bien sûr, là, il y a le conflit intérieur dans la même personne, mais ce conflit qui existe en chacun de nous, et dans lequel Dieu voudrait toujours être le vainqueur, eh bien nous l'avons dans l'Ancien Testament entre deux personnes qui sont différentes, chacune dans leur corps, mais c'est la même chose. Et nous aurions pu ainsi prendre d'autres passages. Je pense à Galates chapitre 4, verset 29. Je vais juste lire ce passage parce qu'il est intéressant. De même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Et nous sommes là en face du conflit historique entre Ismaël, fils d'Abraham, mais par une voie qui n'était pas celle de Dieu, parce qu'il a succombé à la tentation. Et il a utilisé un procédé qui était un procédé de la chair. Et le résultat, ça a été la naissance d'Ismaël, l'ancêtre du monde arabe que Dieu aime profondément. Et puis de l'autre côté, vous avez Isaac qui vient plus tard, le fils de la promesse, le fils de la grâce, à l'heure de Dieu, par le miracle de Dieu. Opposition entre la chair et l'esprit, une des grandes données des Écritures qui nous concernent tous. Alors la grande question, pour appliquer l'enseignement doctrinal sur l'épreuve et la tentation, et sur la place de Dieu et de Satan, la grande question est celle-ci, mais qui se cache derrière Saül? Qui se cache derrière Saül? Et pendant des années, lorsque je lisais ces chapitres magnifiques du premier livre de Samuel, oh, mais j'avais une de ces dents, pour ne pas dire plus, contre Saül. Pourquoi? Parce que je voyais, bien entendu, derrière Saül, Satan. Et c'est vrai que Satan se cache derrière Saül. Parce que le but de Satan, c'est manifestement, quand on connaît l'histoire des rois, la généalogie, cet arbre généalogique qui conduit jusqu'à la naissance de Jésus-Christ, l'incarnation du Fils de Dieu, eh bien, on se rend compte que manifestement, le but de Satan, c'était d'éliminer David. David est un personnage absolument clé dans l'arbre généalogique qui conduit à Jésus-Christ. Il va figurer dans les deux généalogies, celle de Matthieu 1, de Luc 4, puisque et Marie de son côté et Joseph du sien sont de la lignée de David, tous les deux. Et Dieu sait que David est un maillon absolument stratégique, extrêmement important dans cette chaîne de la succession des rois et des personnages qui conduisent à l'incarnation. C'est certainement le maillon le plus important. Donc, il ne faut pas s'étonner si la puissance des ténèbres se déchaîne contre David, pour qu'il soit disqualifié, pour qu'il fasse une faute grave, de manière à ce que cette chaîne généalogique qui conduit à la personne de Jésus-Christ soit brisée. De manière à ce qu'un jour, il n'y ait pas un fils de Dieu ou le fils de Dieu sur la terre qui dise à ses détracteurs, mais écoutez, même dans l'Ancienne Alliance, David disait déjà des choses à mon sujet. Il disait que il m'annonçait comme étant son Seigneur. Et déjà dans l'Ancien Testament, il y avait des annonces comme quoi je serai à la fois le fils de David et le Seigneur de David. Jamais ces paroles extraordinaires n'auraient pu être prononcées si le diable avait gagné. Donc nous sommes là dans une bataille particulièrement stratégique où Satan joue un rôle éminent. Mais ce qui est intéressant, je bénis Dieu pour le jour où il a bien voulu illuminer mon cœur pour que je comprenne le texte un peu autrement. Et que je découvre que, en réalité, c'était Dieu qui était à l'origine première de cette situation. Et que, en réalité, Saül est l'instrument de Dieu. L'instrument de Dieu, non pour faire tomber David, mais pour crucifier la chair chez David. Parce que David, il avait aussi son hippopotame moi. David faisait partie des hommes de la même nature que nous. Et il y avait aussi dans le cœur de David des tendances qui risquaient d'être fort problématiques le jour où il parviendrait à la royauté. Donc il fallait que la chair soit crucifiée. Et il fallait que en David soit formé peu à peu ce que la Bible appelle l'homme spirituel, c'est-à-dire l'homme conduit par le Saint-Esprit, l'homme dirigé par Dieu, l'homme dans le cœur duquel Christ règne en quelque sorte. Et en fait, puisque Saül ne peut plus servir librement Dieu avec joie, pour l'accomplissement du plan de Dieu, il a tellement désobéi. Il a tellement essayé d'en faire à sa tête par esprit d'indépendance. Il a tellement pensé qu'il était plus sage de Dieu. Il est disqualifié. Mais ça ne veut pas dire que quand on est disqualifié, on est mis sur la touche. Non. Quand on est disqualifié, Dieu continue à nous utiliser. Mais désormais, il nous utilise malgré nous. Et Saül va servir malgré lui à quelque chose, malgré même sa déchéance progressive. Il va être utilisé par Dieu dans sa déchéance progressive. Parce que Dieu est parfaitement souverain. Et parce que dans sa parfaite souveraineté, Dieu contrôle tout ce qui se passe dans le cosmos, sur la terre, dans mon pays, dans ma cité, dans ma rue,
Dans mon lotissement. Dans ma maison. Sous mon toit. Chez moi. Dieu est parfaitement souverain. Dieu se sert de Saül le charnel pour combattre le Saül tapis au fond du cœur de David. Parce qu'il y a un Saül qui est caché dans chacun de nos cœurs. Et ça peut être terrible quand ce Saül dans nos cœurs montre le bout de son nez. Et quand je dis nous, je parle de nous en tant que disciples de Jésus-Christ. Alors vous me dites, ou certains d'entre vous me disent peut-être, mais écoutez, il faut que vous justifiez ça. Vous ne pouvez pas simplement annoncer gratuitement des choses qui, par certains côtés, semblent très difficiles à avaler. Quel justificatif avez-vous dans les Écritures, et en particulier dans l'histoire des rapports de David avec Saül, pour affirmer de telles choses? Alors nous avons des preuves. Et ces preuves, elles commencent très tôt dans 1 Samuel 16. Puisque les 13 premiers versets sont ceux de l'onction royale de David par Samuel, qui va être son conseiller, son confident, dernier juge en Israël. Et c'est une onction qui lui confère une royauté potentielle, c'est-à-dire que ce n'est pas une royauté qui va pouvoir s'exprimer immédiatement. À partir de ce moment-là, David sait que Dieu l'a destiné à succéder un jour à Saül. Mais il va s'écouler donc une dizaine d'années au moins de formation, dirons-nous, à la royauté, qui permettront à cette royauté potentielle, en puissance, de devenir une royauté effective sur le terrain, puisqu'effectivement, au début du deuxième livre de Samuel, alors que Samuel, quand David est âgé de 30 ans, il monte sur le trône. Et pour bien montrer la continuité, il va être oint une deuxième fois. Et il va d'abord régner de manière restrictive sur le royaume de Juda pendant 7 ans et demi. Et puis au bout de 7 ans et demi, lorsqu'il aura fait ses preuves pratiques dans cette royauté effective, c'est tout Israël qui va vouloir faire de lui son roi. Et il va donc ensuite être oint une troisième fois pour devenir roi de tout Israël pendant encore 33 ans, ce qui fera 40 années de règne au total. Donc trois onctions et une période très importante, cette guerre des deux trônes, entre ces deux premières onctions. Et regardez, après l'onction, verset 13, Samuel prit la corne d'huile, loignit au milieu de ses frères, nous sommes au chapitre 16, n'est-ce pas ? L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Donc il se produit un changement. Il y a là une intervention de Dieu qui, d'une manière toute spéciale, équipe David pour commencer à le préparer à la royauté. Et puis alors, au verset 14, c'est le basculement. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül. Là, nous sommes dans l'ancienne alliance où les modes d'action du Saint-Esprit ne sont pas forcément les modes systématiques que l'on voit à travers toutes les Écritures, mais je ne vais pas entrer sur ce thème maintenant. Mais en tout cas, l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de Satan. Est-ce que vous avez mal à la gorge? J'ai entendu quelques bruits que je n'ai pas encore entendus ce matin jusqu'ici. Est-ce que j'ai fait une faute? Ah, vous me rassurez, hein? Nous reprenons la lecture. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Erreur de copiste! C'est un copiste qui s'est trompé quand il a
recopier les manuscrits. Ah, ça ne peut être qu'une erreur de copiste. Un copiste qui était amoureux et qui pensait à sa dulcinée. Et sa plume est allée dans le mauvais sens, dans le sens de la logique humaine. Non, heureusement, non. Mais, n'est-ce pas, nous sommes tentés, nous, quand même, de dire, mais comme, vous n'allez pas me faire avaler ça, un mauvais esprit venant de l'Éternel. Et nous avons tellement de peine à comprendre cela, disons-le. Moi, j'ai entendu des croyants me dire, ça fait 30 ans que je cherche la solution. Elle est dans les Écritures. Comme nous avons tant de peine à accepter ce message, il y a une précision au verset 15. Les serviteurs de Saül lui dirent, voici un mauvais esprit venant de Satan, venant de Dieu. T'agites. Vous savez, quand Dieu veut enfoncer le clou d'une vérité difficile à avaler, qui appartient à sa logique divine, mais très peu à notre logique humaine, il la répète. Pour que nous n'ayons pas de doute, parce que le copiste se trompe une fois, on veut bien, peut-être la deuxième fois encore, mais écoutez, ça continue. Verset 16, que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi, ils chercheront un homme qui sache jouer de l'harpe, et quand le mauvais esprit venant de Dieu sera sur toi. Si je vous disais qu'en hébreu, le mot venant n'existe pas, on l'a mis dans le français pour comprendre, mais c'est le mauvais esprit de Dieu. Trois fois. Et il m'est arrivé d'expliquer ici que quand une vérité est répétée trois fois dans le même texte, cela appartient à ce qu'on appelle la stylistique de la langue hébraïque, de l'hébreu, n'est-ce pas ? Parce que c'est la manière d'exprimer ce que nous appelons un superlatif absolu. Il y a bon, meilleur et le mieux. Le mieux, superlatif, superlatif absolu. On ne peut pas aller au-delà. Mais en hébreu, on n'a pas ce type de formule. Donc, quand on veut dire un superlatif absolu qui dise l'extraordinaire, on a deux possibilités. La première, c'est de répéter deux fois le même mot, la même expression. Ça existe dans le Nouveau Testament, nous l'avons lu tout à l'heure. En vérité, je vous le dis, le grain de blé qui est porté en terre, s'il est porté en terre et qu'il ne meurt pas, il ne peut pas porter du fruit, n'est-ce pas ? En vérité, amen, amen. Répétition, superlatif. Ça veut dire, faites attention, c'est une vérité extrêmement importante. Mais chez les Hébreux, on va plus loin. Quand une vérité est encore plus importante que ça, on la répète trois fois. Et vous avez des dizaines de passages dans l'Ancien Testament où une même vérité est répétée trois fois. Pour que nous considérions qu'elle est absolument incontournable, que nous n'avons pas le droit de la discuter, que ce n'est pas une erreur de copiste ou quoi que ce soit, mais qu'elle appartient à la pensée de Dieu. Nous n'allons pas prendre d'autres exemples pour ne pas perdre de temps, mais il y a de très beaux exemples où les prophètes de Dieu ont utilisé ce superlatif absolu pour percuter le peuple d'Israël tellement il était ancré dans des idées fausses. Alors il répétait trois fois. Alors mes amis, ce que nous découvrons dans 1 Samuel 16 est d'une telle importance que, tenez-vous bien, Dieu va faire en quelque sorte que cette vérité soit répétée non trois fois, mais six fois. Deux fois trois, c'est-à-dire deux fois le superlatif absolu. Et je vous en donne une preuve, vous avez la quatrième fois, verset 23 du même chapitre, et lorsque le mauvais esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait, etc. Si nous allons ensuite au chapitre 18 et au verset 10, nous l'avons sauté tout à l'heure, chapitre 18, verset 10, « Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu, ou venant de Dieu, saisit Saül. » Cinquième fois. Et puis enfin, au chapitre 19 et au verset 9, « Alors le mauvais esprit venant de l'Éternel fut sur Saül. » Le rédacteur inspiré de ces textes aurait très bien pu s'arrêter, le mauvais esprit.
où il aurait pu dire une fois le mauvais esprit venant de Dieu. Mais non. Il a fallu que systématiquement, 6 fois, ce rédacteur se laisse conduire par Dieu pour insister sur cette expression, ce mauvais esprit venant de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, cela veut dire que Satan et les esprits malins ne peuvent agir sans la permission de Dieu. Cela veut dire que ce mauvais esprit était autorisé directement par Dieu à s'emparer de Saül. C'était un jugement de Dieu contre Saül. Et la puissance des ténèbres ne faisait qu'obéir à l'ordre de jugement émanant directement de Dieu lui-même. Alors vous me dites, mais est-ce qu'il y a d'autres exemples dans les Écritures qui attestent cela ? Alors nous avons un exemple flagrant que nous allons prendre à côté d'autres que nous ne prendrons pas. Je vous encourage à prendre 1 Chronique, donc un peu plus loin dans les livres, vous avez 1 et 2 Rois, et puis 1 Chronique au chapitre 21. 1 Chronique 21. David est au sommet de sa royauté, son règne est assez extraordinaire, il vient d'accomplir de nombreux exploits, et tout cela monte à la tête du peuple d'Israël. Et lui-même, le roi David, est pris d'une certaine ivresse orgueilleuse, et il prend donc la décision de faire un dénombrement, et un dénombrement militaire. Et ce dénombrement militaire, pour recenser le potentiel de ses armées, avait donc une motivation regrettable et ne devait normalement être fait que sur l'ordre express de Dieu. Or, que nous est-il dit dans 2 Chroniques 21, verset 1er ? Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. C'est clair, hein, dans le texte. C'est Satan qui se lève contre Israël et qui excite David à faire le dénombrement d'Israël. Vous essayez de garder cette page en mettant un signet ou un doigt et vous allez, s'il vous plaît, vers 2 Samuel, donc 2e livre de Samuel, avant les chroniques bien sûr, 2 Samuel chapitre 24. 2 Samuel chapitre 24. Au verset 1er. Comme dans d'autres passages de ces livres, de Samuel et des Chroniques, les mêmes récits reviennent, avec un certain nombre de nuances, parce que les objectifs ne sont pas tout à fait les mêmes. Ce sont des récits complémentaires, mais qui font souvent et généralement allusion aux mêmes événements. Nous sommes dans 2 Samuel 24 face aux mêmes événements que celui de 1 Chronique 21. Il ne s'agit pas d'un autre dénombrement, il n'y en a eu qu'un. Et comment commence le texte ? La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il excita David contre eux. Vous remarquez donc que si dans 1 Chronique 21, c'est Satan qui excite à faire le dénombrement, dans 2 Samuel 24, c'est Dieu qui excite David à faire le dénombrement. Dans 2 Samuel 24, nous avons simplement l'origine première. Le grand patron, le grand Dieu souverain, alors que dans 1 Chronique 21, nous avons l'intermédiaire. Celui que Dieu utilise dans sa souveraineté pour accomplir son plan. Dieu est en colère et il ordonne en quelque sorte à Satan d'exciter David à faire le dénombrement parce que le dénombrement est un moyen de jugement d'Israël à cause de son orgueil. Il n'y a désormais plus d'autre solution. Et c'est donc sous le contrôle éminent et parfait de Dieu que Satan va exciter David. Il y a d'autres textes, vous pouvez les noter pour vous-même, nous ne les prendrons pas. 1 roi 22, 19 à 23, dans l'histoire d'Akab, 1 roi 22, 19 à 23. Et puis alors, vous avez dans l'Ancien Testament aussi ce qui nous intéressait il y a 15 jours, c'est-à-dire l'histoire de Job. Parce que l'histoire de Job est une démonstration de ce que nous sommes en train de voir. Même si elle commence différemment, à savoir que Dieu lance un défi à la puissance des ténèbres. Ça montre bien, il a même au début du livre de Job, il prend l'initiative. Regarde mon serviteur Job, regarde-le dans son intégrité, etc. Alors Satan, en quelque sorte, relève à sa manière le défi. En disant, oui. Tu crois que c'est de manière désintéressée que Job te craint, mets-lui un peu des bâtons dans les roues, et tu verras bien. Et alors Dieu fixe les règles. Il dit, bon, tu le veux. Tu me pousses. Eh bien, on va faire la preuve. Tu peux t'attaquer à Job, mais tu n'iras pas plus loin que cela. Contrôle absolu de Dieu sur la situation que va connaître Job. Donc toute l'histoire de Job repose sur ce principe que nous sommes en train de développer. Alors attention maintenant, là nous arrivons à la pratique. Réfléchissons. C'est donc avec la permission de Dieu et sous son contrôle constant que ce mauvais esprit va se dresser par Saül contre David pour sa formation en vue du règne. Et à l'heure où Dieu, dans sa sagesse, estimera que la formation de David et terminer la formation de base pour une royauté effective, qu'est-ce qui va se passer? Ben, Saül va mourir. Quand le plan initial de Dieu se sera accompli, concernant la formation de David, Saül disparaît. Et nous ajouterons d'ailleurs quelque chose à ce sujet cet après-midi. Et c'est vrai que la vie d'exil qu'a connue David l'a obligé à se remettre totalement à Dieu. Cette vie a trempé son âme, la rendant ferme et souple. Il a appris à développer des qualités de chef. C'est dans cette situation, pendant ces 10 années extrêmement difficiles, que David est devenu un homme de prière. Certains des plus beaux psaumes de David ont été composés pendant cette période. David au fond de la caverne. David quand il fut délivré de tous ses ennemis. David qui se fait passer pour un fou chez Achish, roi de Gad. Vous avez des introductions à un certain nombre de psaumes qui indiquent les circonstances de composition. Et ce sont parmi les plus beaux psaumes. David a dû apprendre à dépendre de Dieu, à l'aimer. Il est devenu un homme de prière au travers de ces années difficiles. Et puis il était entouré de compagnons déchaînés, téméraires. Il lui fallait développer des qualités de chef. Il lui fallait apprendre à connaître les hommes. Et il a accumulé pendant cette période toute une expérience importante sur la façon de diriger les hommes. Et tout cela parce qu'il y avait un mauvais esprit venant de Dieu qui s'attaquait à lui par le moyen d'un roi déchu. Alors, continuons à transposer. Dieu s'est donc servi, langage moderne, d'un lunatique lié par un esprit malin, impulsif, terriblement versatile, rongé d'orgueil, mélancolique, coléreux. C'est Saül tout ça. ayant les symptômes d'une psychose maniaque dépressive. J'ai la même, les paroles d'un docteur en psychiatrie. Saül, avec ses comportements bizarres, ses attitudes extrêmes, fut probablement frappé de folie dépressive. L'hallucination qui le poursuivait lorsqu'il croyait que David complotait contre lui relève de la paranoïa, c'est-à-dire un délire chronique qui est systématique. Une paranoïa dépressive qui conduit au désespoir et au suicide. Là où le psychiatre a tort, c'est qu'il dit qu'il ne faut pas voir derrière un mauvais esprit venant de Dieu. Ça appartenait au symbolisme parce qu'on ne connaissait pas les mécanismes de l'être humain, son fonctionnement psychique, etc. Pas d'accord. Pas d'accord. Si c'était le cas, ça voudrait dire que Dieu est un Dieu menteur et que nous ne pourrions pas lui faire confiance. Et s'il est vrai qu'il ait des types de dépression, etc., qui sont liés effectivement à toutes sortes de dérèglements, y compris des dérèglements hormonaux, il est aussi des maladies et des déséquilibres mentaux de ce genre qui sont liés à la domination de la puissance des ténèbres dans la vie d'un individu. Les deux existent. Et nous n'avons pas le droit, par rationalisme moderne, parce que nous sommes des gens qui savons tout, de vouloir dire à Dieu ce que Dieu n'a pas envie de dire. Parce qu'à ce moment-là, nous ne pouvons plus croire à la parole de Dieu. Soyons clairs. Mais, redisons-le, Dieu s'est servi de ce personnage-là pour former le plus grand roi d'Israël. Et pour développer en lui le caractère du fils de David. Parce que c'est vrai qu'il y a, dans certains chapitres, notamment les chapitres 24, 25 et 26 du premier livre de Samuel, des accents qui nous ramènent évidemment aux évangiles et à la voie royale du pardon. À la générosité du cœur du Seigneur Jésus, quand il évoque la grâce dans les situations d'injustice. Développement, 1000 ans avant Jésus-Christ, du fruit de l'esprit, de la générosité du cœur, qui triomphe sur la jalousie, sur la haine. C'est extraordinaire. Mais ces chapitres sublimes n'ont pu être écrits que parce qu'il y a eu pendant des années, un Saül, habité d'un esprit malin venant de Dieu, pour le conduire à se jeter en permanence de plus en plus dans les bras de Dieu, à dépendre de lui. Faut-il dire que cela nous permet de comprendre que Dieu se serve d'un patron au caractère difficile, nous l'avons vu, hier soir. 1 Pierre 2, 18. Rapport entre ouvriers et patrons à la fin du 1er siècle. Soyez soumis non seulement aux patrons qui sont agréables, mais soyez aussi soumis à ceux qui ont un caractère difficile, et c'est un euphémisme, c'est pas une vérité forte. Le texte grec dit une scoliose du caractère. Soyez soumis même à un patron qui a une scoliose du caractère, qui est pervers, qui est tordu. Et il m'est souvent arrivé de dire que, ayant dû interrompre mes études pendant 2 ans, j'étais secrétaire d'une mairie dans une ville de 10 000 habitants à la frontière du Luxembourg, et que mon patron, le plus important, c'était le maire. Et que nous avions une séance de travail tous les samedis matins dans le bureau du maire, et que dès le vendredi, tous les employés et le personnel qui se réunissaient pour cette séance de travail tremblaient dans ses culottes, parce que monsieur le maire était peut-être très gentil avec certains pour être élu, mais
Quel caractère! Aïe, aïe, aïe! Que de crampes douloureuses! Et que de savants pris en public! 1 Pierre 2, 18. Dieu se sert d'un voisin de chambre impossible. Dieu se sert d'un croyant rétrograde. C'était Saül. Charnel. Dieu se sert de frères et sœurs difficiles à vivre. Pour former ses enfants. Dieu se sert d'un conjoint non converti. Pour former ses enfants. Oh, ne croyez pas que je le dise avec allégresse. Car je n'ignore pas ce que cela peut signifier, parfois comme intensité de souffrance et comme durée de souffrance. Dieu n'est pas sadique. Dieu ne se plaît pas à faire souffrir les hommes. Mais ce Dieu qui permet la souffrance est aussi celui qui la contrôle dans nos vies. Pour que aussi injuste, aussi difficile à avaler soit-elle, elle porte du fruit. Parce que nous avons un hippopotame, moi. Parce que nous avons besoin de perdre nos illusions. Notre confiance en soi. Il faut que mon règne disparaissent pour que son règne vienne dans ma vie. Et vous savez combien notre moi nous chatouille. C'est André Adoul qui, dans un de ses livres, écrit ceci: « Le moi qu'on s'emploie à éliminer rebondit toujours comme un bouchon lâché dans l'eau. Plus on veut comprimer le moi et plus il se montre. Mettez-le au pilori et le voilà sur le trône. Il est si tortueux qu'il réussit même à tirer orgueil des assauts qu'il subit lorsqu'on tente de le déloger. » Et ce théologien, un grand résistant allemand, je ne suis pas d'accord avec toute sa théologie, loin de là, mais il a été un exemple dans bien des domaines, Dietrich Bonhoeffer, pendu par les nazis, à cause de sa résistance. Dietrich Bonhoeffer a dit un jour cette vérité qu'il a expérimentée dans son propre corps, dans sa chair. Quand Christ appelle un homme, il lui dit « Viens et meurs ». Et mes amis, notre problème, mon problème, c'est que je n'ai pas envie de mourir. Ça fait mal, mourir. Mais si le grain de blé qui est jeté en terre ne meurt, il reste seul. Il reste seul. Celui qui voudra sauver sa vie, son âme, là, perdra. Mais s'il accepte de mourir, par le traitement que Dieu, dans son amour et sa souveraineté, lui réserve, s'il accepte de mourir, alors, il porte du fruit. Et Jésus n'a pas dit ça seulement pour ses disciples. Il le disait pour lui-même. Quand ces Grecs étaient tentés d'essayer de le détourner du chemin obligatoire de la croix, lui disait: mais nous sommes prêts à t'accepter. Viens chez nous, tu auras du succès. Jésus de leur dire: non. Non. Je dois passer par la croix. C'est le seul chemin de salut pour l'humanité. Sinon, sans mourir, je resterai seul. Le succès ne sera qu'apparent, il sera pour un temps. Vous serez heureux pendant un certain temps, puis vous me rejetterez à votre tour. Et ça n'aura servi à rien.
Il ne peut y avoir de croissance spirituelle qu'à travers la mort à soi. Chaque pas sur le chemin du progrès spirituel sera marqué par les empreintes sanglantes de l'amour propre blessé. Et vous savez, nous n'avons pas la capacité de nous crucifier nous-mêmes. Vous avez déjà vu un crucifié dans une histoire quelconque qui se soit crucifié lui-même? Ça n'existe pas. Il y a toujours un moment où il ne peut pas aller plus loin, n'est-ce pas? Tout simplement parce qu'il faut qu'il tienne le marteau dans une main et éventuellement le clou dans une autre. Donc il pourra commencer à se crucifier, mais il ne peut pas aller jusqu'au bout. Alors Dieu a prévu des frères marteaux et des sœurs clous. Et si ça vous ennuie, des sœurs clous ou des sœurs marteaux et des frères clous, peu importe. Mais il a prévu cela pour nous crucifier. Saül a été le frère marteau et le frère clou à la fois, pour crucifier David 1000 ans avant que Jésus-Christ ne meure sur la croix. Mais quel fruit! Quel fruit! Aujourd'hui. Et je termine, parce que j'avais été frappé il y a déjà quelques années par un reportage dans les faits divers du 20h de ce qui était à l'époque Antenne 2. Où il venait de se passer quelque chose d'assez particulier au musée de la Légion d'honneur, à Paris. Une bande de voyous faisait des dégâts, avait réussi à s'introduire dans ce musée, et a poignardé en quelque sorte un portrait qui était là dans ce musée. Coup de couteau, en plein visage du portrait. Alors on a radiographié le portrait pour pouvoir le traiter. Et on s'est alors rendu compte qu'il y avait derrière le visage qui avait été frappé de ce coup de poignard, il y avait un autre visage, plus ancien. Donc il y avait eu peinture sur peinture originale. Et donc à ce moment-là, avec cette découverte extraordinaire, eh bien, on a nettoyé la couche de surface pour faire ressortir le portrait le plus ancien. Et c'est lui qui se retrouve aujourd'hui dans la vitrine de ce musée. Et je me souviens, parce que je l'ai noté, ça m'avait impressionné, du commentaire de celui qui dirigeait les informations ce soir-là. Il avait dit ceci: il y a dans la vie des épreuves qui vous marquent, mais qui vous grandissent quand vous les surmontez. C'est parce que Dieu permet dans nos vies, dans sa souveraineté, des coups de poignard, que derrière notre peinture actuelle, notre portrait actuel, avec nos masques, finit par apparaître, grâce aux radiographies de la souffrance, la beauté du visage de Jésus-Christ. Et rien qu'à cause de cela, les souffrances injustes valent la peine d'être expérimentées, même si, comme nous le verrons cet après-midi, nous ne comprenons pas aujourd'hui. L'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est que Dieu fasse son travail dans son amour.